Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi, midi 15h tous les jours sur RMC. Estelle est encore en vacances, elle a bien raison qu'elle en profite. Elle reviendra en pleine forme dès lundi. En attendant, autour de moi aujourd'hui, Mao Becker-Granier pour nous donner toutes les infos pour tout comprendre. Thierry Moreau, journaliste, Fatima Benomar, militante féministe, et Jérôme Lavrieux, ancien député européen, propriétaire de gîtes. Dans un instant, plus d'une femme sur deux en France hésite à aller à la plage de peur d'être harcelée, d'aller à la plage seule. Est-ce que ça vous étonne? Vous nous appelez au 32-16 à 13h30. Ce sera le meilleur du jour sur RMC. Le zapping à 14h. Un projet de loi envisage de faciliter l'implantation de nouvelles éoliennes en France. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une hérésie? À 14h30, les immanquables de Mao Becker-Granier avec les agressions qui se multiplient contre les éboueurs à Marseille et le coût de la vie étudiante qui explose. Et puis à 14h50, ce sera le quiz d'Estelle avec à gagner aujourd'hui Mao.
À gagner aujourd'hui, vous allez pouvoir remporter le tote bag RMC, le jeu de société Burger Quiz, parfait pour les soirées d'été. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3216 touche 4 ou envoyez le mot quiz au 73216, quiz au 73216.
RMC Estelle Midi.
55%, c'est notre chiffre du jour, chiffre dont, qui nous vient d'une étude YouGov dont tu vas nous parler dans un instant, Mao. 55%, donc plus d'une femme sur deux en France hésite à aller seule à la plage en cause, Mao, la peur d'être harcelée.
Ah oui, c'est ce que nous apprend un sondage réalisé par YouGov, et cette peur ne vient pas de nulle part. Ce sondage révèle aussi que 46% des femmes de 18 à 24 ans ont déjà été harcelées à la plage, ce qui explique ses freins, ses craintes. Pas question de retourner dans un lieu où l'on ne se sent pas en sécurité, soit par peur d'être agressé, mais aussi d'être jugé. 2 femmes sur 3 interrogées expliquent avoir subi des remarques inappropriées sur leur physique, et 12% d'entre elles disent même avoir été insultées. C'est beaucoup. Face à ces agressions, la ville de Marseille a par exemple lancé une application Safer Plage. Elle permet d'envoyer une alerte géolocalisée aux secouristes de la plage. En fonction du type d'alerte envoyée, la police municipale peut intervenir immédiatement.
Plus d'une femme qui hésite, sur deux qui hésite à aller à la plage seule de peur d'être harcelée. Est-ce que ça vous étonne? On vous pose la question au 32-16. Je vais pas être misogyne, donc je vais d'abord me tourner vers Fatima. Je vais d'abord me tourner vers Thierry Moreau. Tiens, Thierry, est-ce que ça t'étonne?
Alors, ça me navre surtout qu'en 2022, je trouve ça inconcevable. Et moi, ce qui m'effraie, c'est que je vois autour de moi, en discutant avec des que des gens de ma génération, hommes, et des comportements qui soient misogynes, je peux le comprendre parce que la culture fait. Mais je vois ce comportement chez des jeunes, et ça me navre encore plus. C'est-à-dire que je vois dans mon entourage des gens qui, dans leurs discussions, continuent à faire des remarques sexistes, etc. Pourtant, il y a depuis 2018 un délit d'outrage sexiste qui est puni de 90 à 750 euros d'amende. Il y a eu 5000 infractions en 4 ans, ce qui est très très peu. Mais seulement, alors il y a deux chiffres qui m'ont choqué dans cette étude. 20% des victimes sont mineures. Déjà, ça c'est un premier point. Et surtout, 2% seulement des victimes portent plainte. Donc on a un problème. Je trouve ça, mais... effrayant.
Ouais, effrayant. Porter plainte pour harcèlement de rue, tu rigoles. Non, mais... ouais, et effectivement, 60% des femmes, leur premier harcèlement de rue, c'était avant l'âge de 17 ans, et dedans, plus de 65%, c'était avant l'âge de 15 ans. Donc, le propre du harcèlement de rue, c'est que ça nous marque dès le plus jeune âge, comme ça, on comprend très vite les règles du jeu. Et bon, en parlant de Marseille.
C'est fou, t'es d'accord.
Ah bah c'est fou, mais c'est le patriarcat, bonjour. En fait, on a parlé de Marseille tout à l'heure. En juin 2019, j'avais fait un statut sur Facebook. Je l'avais appelé au moins 6 euros par jour le prix du patriarcat. Parce qu'il y avait deux endroits au bord de mer où je pouvais aller. Il y avait la plage publique avec la consigne gratuite, le transat qui n'était qu'à 10 euros et il n'y a pas d'incitation à consommer. Et une espèce de plage privée, en fait c'était un restaurant qui donnait sur le bord de mer, alors que normalement ils n'ont pas le droit. Le transat était à 16 euros. Et j'ai quand même été dans le deuxième spot.
Pour être tranquille,
parce que la veille j'étais allée dans la plage publique, c'était pas possible, je me faisais harceler tout le temps, et donc j'avais fini par merci de me coûter de l'argent et de me forcer à jouer le jeu de la privatisation de l'espace public contre lequel je suis contre et à qui je peux demander ce remboursement de taxes genrées. C'est vrai, je demande vraiment aux femmes de témoigner des dépenses qu'elles font par stratégie d'évitement contre le harcèlement de rue, et si tu commences à le compter, ça peut monter assez haut. Et là, je finis sur une deuxième anecdote. Là, je suis allée à Barcelone, là, c'est cette semaine. Mm-hmm. Et j'y suis allée en Blablacar. Donc après 10 heures de route, je me suis, et il était à 6h30 du matin, j'arrive à Barcelone, il faisait super chaud. Je me suis dit, allez, je vais marcher une heure et je vais aller sur la plage. J'arrive à la plage, il y a quoi, 10 personnes sur toute la plage. Je me jette dans l'eau et là, il y a un jeune mec qui vient. Il pose son sac sur le sable, il fonce sur moi dans l'eau comme un requin. Et donc, il commence à me parler en espagnol. J'ai dit, écoutez, pas habla espagnol et de toute façon, pas intéressé. Et c'était impossible de m'en débarrasser. Il a fallu que je gueule. Et quand j'ai commencé à gueuler, donc d'abord, il a demandé pourquoi, genre pourquoi je ne veux pas lui parler. Écoute, juste, j'ai envie de rester tranquille. Et après, il fait genre, c'est moi qui suis folle. Il me faisait, ouais, tranquille, et tranquille. Et genre, pourquoi elle s'énerve, celle-là? Donc, ouais, donc hashtag jamais tranquille. Et ça ne m'étonne pas, je suis concernée. Donc, ça ne m'étonne absolument pas, ce chiffre.
Jérôme Lavrieux.
Pour moi, ça dépasse l'entendement. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. J'ai peut-être pas été éduqué comme d'autres personnes, mais pour moi, ça dépasse l'entendement qu'au XXIe siècle, on est encore des abrutis qui aient ce comportement-là. Tu faisais la remarque en disant ma génération, etc. Moi, je pense que...
Moi, je ne suis pas comme ça. Hein.
Non, mais
je peux comprendre que des gens de nos âges...
Bah même ça, moi, je n'arrive pas à le comprendre.
Bah je me demande même s'il n'y en a pas... Je me demande même s'il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'il y en a...
Il y en a toujours.
Je me sens impuissant parce que je ne sais pas comment...
Je ne
sais pas comment on peut résoudre ça si ce n'est par l'éducation. Enfin, l'éducation, franchement, le type qui a 17 ans ou 18 ans qui se comporte comme ça, il n'a pas reçu l'éducation de la Troisième République. Il a été à l'école il n'y a pas tellement longtemps où on le a...
Je suis pas sûr qu'il soit à l'école qu'on lui en apprenne ça. Hein.
Et ben alors c'est qu'il y a une défaillance qui est commune et qu'on a des troupeaux de frustrés qui savent pas gérer leur frustration et qui dès qu'ils voient quelqu'un du sexe opposé se sentent obligés de voilà, ils se sentent plus, ils sont pas élevés, ils sont pas éduqués.
Non, il y a des hommes très éduqués, même au-dessus de tout soupçon, qui font ça.
Mais alors justement, Fatima, moi j'ai envie de te poser une question.
Éduqué fait ça et qu'il fait ça,
reste bien devant toi,
j'ai pas éduqué, je te dis.
Voilà.
Donc s'il fait ça, je suis désolé parce que je m'emporte parce que ce genre de truc pour moi c'est totalement incompréhensible. Vous avez fait la gentillesse de rappeler qu'il m'est arrivé d'être député européen pendant 5 ans. Quelque chose qui est totalement
incompréhensible. Une femme a été sifflée à l'Assemblée nationale parce qu'elle portait une robe par des hommes magnifiquement éduqués.
J'étais au Parlement européen. J'étais le seul député français de droite à avoir été volontaire pour être membre de la commission sur l'égalité des femmes et l'égalité des genres. Donc ça reflète quelque chose quand même. Et j'y faisais un travail extraordinaire. J'ai d'ailleurs découvert beaucoup de sujets comme ça qui m'ont enrichi personnellement.
Mais c'est aussi, Jérôme,
c'est pas propre à la France.
Et j'entends ce que tu dis.
Ouais,
c'est pas,
bah, c'est que, mais comme j'entends ce que tu dis, c'est que je ne sais pas comment le résoudre.
Et ben, j'entends ce que tu dis, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai eu la même réaction il y a quelques années rapidement en 2018 au moment de la Coupe du Monde, la France est victorieuse, vous souvenez tous, face à la Croatie, il y a la fête le soir. Le lendemain, on avait eu, tu t'en souviens, Fatima ?
Oui.
Pas mal d'infos. Alors, au début, nous, on est journalistes, il y avait des dépôts, il y avait, comme tu l'as dit, très bien rappelé aussi, 2% de femmes qui déposent plainte. Donc, on avait des infos, des rumeurs, comme quoi il y a eu beaucoup de femmes qui s'étaient fait agresser, la main aux fesses, etc., quand ça allait pas plus loin, pendant la fête le soir de la Coupe du Monde. Et puis, moi, j'en parle avec une stagiaire de la rédaction à l'époque, qui travaille avec moi, et je lui dis, c'est quand même dingue ces histoires et tout, elle me fait, mais t'es bête ou quoi, pour pas dire un autre mot. Et je la regarde, je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Mais elle fait, mais moi ça m'arrive tout le temps, mais tout le temps, mais quand je... Et je vous jure, Jérôme, moi je suis tombé des nues, je ne pensais pas, non mais je... sincèrement,
il n'y a que des hommes vertueux.
Mais non, je pensais pas que c'était à ce point là c'est-à-dire qu'elle m'a expliqué qu'à chaque fois qu'elle allait à un concert, qu'à chaque fois qu'elle allait à un endroit, dans un endroit où il y a du monde, systématiquement ça lui arrive.
Mais moi, je voulais poser la question à Fatima. C'est quoi la solution pour que ces jeunes, parce que là, on a parlé du problème générationnel, mais pour que les jeunes aujourd'hui soient encore aussi malotru, pour n'employer que ce mot-là. En tout cas, sexiste.
En tout cas, c'est sûr qu'on n'arrive pas à avoir un vrai débat là-dessus. À peine on avait commencé à en parler en 2017, qu'on avait eu la fameuse tribune. Oh là là, on n'a plus le droit de se mettre une main aux fesses dans les transports. Donc, il y a souvent un backlash dans ce débat. Dans le sous-texte, c'est on ne peut plus draguer, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Donc, de fait, ça bloque la prise de parole, la prise de conscience et le fait qu'il y a un changement de camp dans la peur. C'est-à-dire que beaucoup de plus en plus d'hommes se dire que là, ils vont être jugés sévèrement dans l'espace public si jamais ils passent à l'acte. Il y a un petit frémissement quand même. Là, je le sens que quand il y a un mec qui commence à emmerder une nana dans les transports en commun et tout, il y a un peu plus de personnes qui disent bon, maintenant, fous-lui la paix. Mais ça correspond à des pics dans le débat quand c'est un débat qui est intelligent, vertueux et qui ne vient pas à chaque fois mettre la contradiction dans le quand est-ce qu'à un moment on va trop loin. Là, on va pas trop loin. Là, la situation des femmes, c'est que dès le plus jeune âge, vraiment la puberté et même avant, il y a un rôle social que remplit le harcèlement de rue, c'est de nous apprendre à nous taire pour ne pas envenimer la situation.
Je pense, ouais. Pour revenir à ce que je disais juste avant, Jérôme, je voyais que tu me regardais tout à l'heure et tu confirmais, je le voyais dans tes yeux, c'est qu'on y a encore une grande part de naïveté chez les hommes.
Oui.
On ne se rend pas compte. Mao, qui est à côté de moi, Mao, est-ce que tu confirmes ce que me racontait à l'époque ma stagiaire, toi, tu l'as déjà vécu, tu le vis, est-ce que tu le vis souvent ?
Ah non, mais je le confirme aisément, et comme Fatima Ben Omar, je suis un peu étonnée de voir que ça puisse vous étonner encore, que ce soit le quotidien, ça c'est 99% des femmes ont subi une agression dans leur vie, que ce soit à la plage, dans le métro, partout, et voilà, et maintenant c'est sûr que vous parliez de solutions, moi je pense qu'une des choses c'est effectivement d'être en tant qu'homme encore plus proactif, notamment vis-à-vis de vos pères, pour justement toujours être plus ferme dans les réactions. C'est les réactions, c'est très important, l'image que les autres hommes donnent quand quelqu'un n'agit pas bien.
Anne est avec nous au 32-16. Bonjour Anne.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC. Anne, vous nous appelez depuis le Morbihan, c'est ça?
Voilà, tout à fait. À côté de la forêt brousséliande qui a brûlé il y a pas longtemps.
Malheureusement. Anne, plus d'une femme sur deux qui hésite à aller à la plage seule de peur d'être harcelée. Vous allez souvent à la plage, j'imagine, par là où vous êtes. Est-ce que ça vous étonne, ce chiffre?
Oui et non. Mais il est vrai que moi, je me trouve dans une région où, on a des grandes plages. Et il est vrai que, moi, je mentirais en disant que j'ai été embêtée. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc il est vrai, mais je peux comprendre que peut-être des jeunes filles, peut-être dans des
coins de France,
peut-être plus embêtants, je sais pas. Moi je sais que personne en Bretagne, moi je n'ai jamais été embêtée, il est vrai que j'adore la mer, donc pour moi ce serait vraiment un gros point de plus pouvoir y aller. Bon bah il est vrai que je ne suis pas non plus canon, j'ai un âge certain.
Je crois pas que ce soit le problème, Anne.
Comment ?
Je pense pas que ce soit lorsque vous avez affaire à un harceleur, peu importe l'aspect de la personne.
Alors peut-être que je me dis que je disais peut-être qu'avec mon âge, on m'en mettra moi. Mais il est vrai que, non, j'aime trop la mer pour qu'on m'empêche et je m'en fiche à la rigueur que même de me prendre avec.
Ah bah, on va passer dès le terrain, c'est sûr, hein. Fatima, elle a bien raison.
Mais je pense que c'est parce que vous avez sans doute, en tout cas dans les statistiques et les études qu'il y a sur le harcèlement de rue, c'est pas tant le profil des personnes, il y a des femmes qui correspondent ou non au canon, qui sont grosses, etc. Elles ont toutes été harcelées, mais c'est vraiment sur la confiance en soi qu'elles ont et le fait qu'elles n'ont pas subi trop de violence dans leur âge le plus jeune, ce qui induit chez nous des comportements aussi d'intériorisation, on va dire, du stigmate des violences, qui fait qu'on envoie aussi des signaux. Donc c'est bien, vous avez une belle confiance en vous, ça rayonne et c'est sans doute ce qui empêche des harceleurs de vous embêter.
Ah non, mais je suis tout à fait d'accord, hein, mais je trouve ça vraiment odieux de toute manière, le genre de comportement. Hein. De toute façon, j'ai deux fils et il est vrai qu'au niveau éducation, ils n'ont pas du tout cette mentalité-là, et heureusement d'ailleurs.
Merci beaucoup, Anne, d'avoir été avec nous au 32-16 et belle journée du côté du Morbihan. Pauline Baron nous rejoint. Bonjour Pauline Baron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC. Vous êtes membre de la coordination nationale du collectif féministe Nous Toutes. Ce chiffre, vous le connaissiez, vous le découvrez pas aujourd'hui. Hein. Plus d'une femme sur deux qui hésite à aller à la plage seule en France de peur d'être harcelée. Bon, bah voilà, ça vous étonne pas. Est-ce que vous comprenez, je vais prendre langue comme ça, mon étonnement, celui de Jérôme Lavrieux, celui de Thierry Moreau, notre étonnement à nous, hommes, face à l'ampleur qui est massive quand même de ce type de comportement.
Moi, je n'ai pas dit que j'étais étonné. Je t'ai dit que je suis atterré de ça. Je sais que ça existe.
Moi, j'assume, je suis étonné. Mais je ne pensais pas que c'était de cette ampleur.
Mon effarement, c'est d'avoir autant d'abrutis, quoi. Ouais.
Les abrutis, c'est des misogynes. Parfois, ils sont très intelligents, mais ils sont misogynes.
Pauline Baron.
Oui, je suis à la fois étonnée et aussi pas étonnée. Je pense qu'en fait, ce qu'il y a désormais avec tout ce qu'il y a eu suite à la vague MeToo, suite aux manifestations, au collage féministe, il y a eu une prise aussi de conscience des jeunes femmes et des femmes qui vont à la plage sur des comportements qui autrefois, en fait, on acceptait, entre guillemets, de le subir, les regards insistants, les insultes. Pour nous, en fait, c'était des comportements, on va dire, normaux et pas des comportements qui tombaient sous le coup de la loi ou qui tombaient sous le coup du sexisme. Et aujourd'hui, on a, entre guillemets, une prise de conscience de toute cette génération qui, désormais, savent porter, mettre des mots, en fait, sur ces comportements, sur ces actes. Donc, je pense que les filles, les femmes, les personnes qui sont perçues comme féminines dans la société ont eu cette forme de prise de conscience qui doit maintenant concerner aussi des hommes. Mais la plage, je dirais, est symbolique parce qu'on est en été, qu'on a les corps découverts, mais ces comportements, ces insultes, ces regards, en fait, ils ont lieu dans toute la société, que ce soit dans les transports publics, dans les bars, dans les festivals également. On sait très bien qu'il y a des recrudescences de violences sexistes et sexuelles lors des festivals de musique pendant l'été. En fait, c'est juste que, comme le disait Fatima Benomar, on a une mise en avant du corps de la femme qui est à disposition, qui est mise à disposition des hommes dans cette société patriarcale. Et une des façons aussi de contrôler ce corps des femmes, c'est par les habits, qui en plus, voilà, permet également de faire porter la responsabilité des violences sur les femmes. C'est parce qu'elles étaient.
C'est-à-dire que je vais parler très crûment, mais aujourd'hui on le sait en plus qu'il y a de moins en moins de femmes qui le font pour des raisons de santé, mais aussi pour des raisons. Je parle du sein nu sur la plage, pour des raisons de santé. Ça c'est très bien, il faut se protéger, mais aussi parce qu'elles ont peur du regard des autres. Aujourd'hui, clairement, une femme qui fait du sein nu, une jeune femme qui fait ou peu importe qui fait du sein nu sur une plage, si elle se prend des insultes, si elle se prend des remarques, dans l'esprit de certains, c'est qu'elle la cherchait. Hein.
Oui, voilà, comme lors d'un viol. Il n'y a pas plus de violences sexistes ou sexuelles l'été que l'hiver, par exemple. Mais c'est vrai que l'été, il y a moins de possibilités, on va dire, de remettre un vêtement supplémentaire pour la jeune femme ou la femme qui subit un regard. Et ce vêtement supplémentaire qui peut être comme une forme de protection, on ne l'a pas pendant l'été. Mais hiver, été, il y a cette responsabilisation de la victime en mode, vu ce qu'elle porte, Elle l'a bien cherché.
On en est toujours là.
Souviens-toi des réactions quand Cécile Duflot a été soufflée à l'Assemblée nationale. Les députés en sortant avaient dit ouais, bah, quand on s'habille avec une robe comme ça, c'est ce qu'on cherche. C'est donc, oui, et ça. Et donc, il n'y avait que des hommes, on va dire, qui sont arrivés à l'Assemblée. Ce n'est pas des personnes qui ont manqué d'éducation ou quoi que ce soit. C'est vraiment la misogynie qui amène à ce genre de raisonnement.
Oui, la façon, comme tu dis, Fatima, de contrôler à la fois le vêtement, le corps de la femme, faire responsabiliser les femmes des violences qu'elles peuvent subir du fait de cette tenue, de la tenue qu'elles portent, et ainsi, en fait, contrôler encore plus combien de fois aussi le matin, vous avez des femmes qui vous expliquent qu'elles sont devant leur armoire et qu'elles réfléchissent qu'est-ce qu'elles vont pouvoir mettre pour pas être dérangées dans les transports publics.
On en est toujours là. Enfin,
je me reconnais pas dans le discours que vous venez de tenir, parce que moi, j'ai jamais contrôlé la façon dont mon épouse s'habille, j'ai jamais contrôlé la façon dont ma fille s'habille, et c'est vrai que j'ai discuté il y a pas très longtemps avec l'une et l'autre, et elles m'ont toutes les deux avoué agressées dans les transports.
Tu parles de ta femme et de ta fille. Oui. Moi, c'est pareil, j'en ai déjà discuté avec mes filles.
Mais elles m'ont dit en revanche qu'elles avaient été agressées dans les transports.
Je vais envoyer. J'espère qu'elles te l'ont raconté quand même.
Mais récemment.
Ouais. Je
vous pose la question, Fatima, Mao, Pauline Baron, Thierry et moi. Mais on est des débiles ou pas? Enfin, franchement,
on est minoritaire.
Non, mais on est sincère. Moi, je tombe des nues, encore une fois, je le dis.
De toute façon, on peut pas se baser sur vos déclarations, parce que moi, ça fait 12 ans que je suis militante féministe. J'ai jamais entendu un mec s'auto-incriminer là-dessus.
Non, mais
je vous trouve sympathique.
Fatima,
la plupart de.
J'adhère à ce que tu dis, le genre de propos que tu es en train de tenir, moi, je ne supporte pas non plus.
D'accord, tant pis. Je le dis quand même. C'est pas parce que je dis que je trouve ça
effrayant, effarant,
d'accord,
etc.
Selon tous les mecs que je connais, je serais l'inverse.
Non,
bon, en tout cas, j'ai jamais rencontré aucun mec de mon cercle familial, amical ou quoi que ce soit qui se soit senti concerné. De temps en temps, il y en a un qui me dit.
Je me sens concerné. Je me sens concerné sur le fait qu'il y ait des abrutis qui est genre.
Non, c'est pas des abrutis.
Il faut lutter contre.
C'est pas Zabossi, c'est des harceleurs. Et en tout cas, et j'ai appris a posteriori que des personnes qui m'étaient chères, qui étaient des amis, qui étaient des militants de mon organisation, qui étaient des proches, qui étaient des membres de ma famille, ça c'est le pire quand c'est ton tonton ou quoi que ce soit, ou ton père dont on vient te dire des choses, on découvre que les hommes qui nous entourent, ils ont d'autres comportements par ailleurs. Mais et à un moment, ces hommes, ils ne tombent pas du ciel. Ce sont nos frères, ce sont nos pères, ce sont nos amis, ce sont nos collègues. C'est peut-être pas vous trois, mais Fatima, c'est quand même beaucoup
d'hommes. Fatima, tu as déjà entendu quand même sur du bureau. Ouais. Moi, je l'ai entendu autour de moi quand même. Le mec qui dit maintenant on peut plus, si on peut plus faire une remarque, dire une gonzesse, voilà, pour employer des termes qu'elle nous plaît, on peut plus rien faire. Ça, tu l'entends quand même.
Oui, mais je l'entends tout le temps. C'est le discours qui c'est si on arrête de harceler les femmes, ce sera la fin du monde.
Ça, tu vois quand même ces acteurs-là, tu les vois quand même.
Oui, tout à fait.
Et entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font.
Voilà, mais il y a des hommes qui vont avoir un discours féministe au carré, aux petits oignons, et dont on apprend a posteriori que c'était des agresseurs, des harceleurs. Et qui eux-mêmes, quand on leur décrit leur comportement, se disent ça va.
C'est parce que le pire, parce qu'il y a une forme de double trahison à chaque fois chez ces personnes-là, et on a beaucoup eu d'exemples ces dernières années avec des militants de gauche.
Ah oui, ça on a eu. Ouais. Pauline Baron, une dernière question. L'une des solutions face à ce fléau, c'est d'en parler, ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de lutter contre ça?
Nous, au collectif Nous Toutes, on milite beaucoup aussi pour l'éducation et l'application de la loi des heures d'éducation à la vie affective et sexuelle, parce que c'est le moyen aussi de rétablir l'idée de consentement et l'idée d'égalité dans des rapports intimes et sexuels, et au-delà dans l'intime de tous les jours, de regarder quelqu'un. Donc ça, c'est un des éléments. C'est vraiment la jeunesse qui va être précurseur en fait de tous ces changements de comportement, et puis après de continuer à en parler, d'expliquer que un regard, en fait, comme on explique le continuum des violences, un regard par effet domino entraîne une injure sexiste, entraîne du harcèlement sexuel, et puis au bout on a le viol, le féminicide. Expliquer que chaque comportement en fait sexiste n'est pas juste à prendre, de manière individuelle, puisque les femmes le vivent tous les jours. Et puis aussi, c'est d'expliquer ça aussi, c'est comme je le disais sur les plus jeunes, ça évite la reproduction de ces comportements.
Merci Pauline Baron d'avoir été avec nous, membre de la coordination nationale du collectif féministe Nous Toutes. Merci d'avoir été avec nous dans Estelle Midi sur RMC. Thierry, tu voulais réagir?
Je comprends pas cette histoire de regard, parce que je peux regarder une jeune femme dans la rue.
Il y a une manière de regarder, très bien Thierry.
Thierry,
il y a une manière de regarder.
Quand tu prends le métro et qu'il y a un mec qui est assis en face de toi et qui te fixe pendant 10 minutes,
ça,
et que tu dois te déplacer.
Ça, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Mais dire que le regard a un effet domino, ça, moi, je comprends
pas. Elle parle du regard insistant.
Je peux regarder dans la rue une femme en la trouvant belle. Tu peux regarder, toi, la terrasse d'un café, un garçon parce que tu le trouves beau.
Toutes les femmes qui nous écoutent savent ce que c'est qu'un regard, un mec qui s'essuie les yeux sur elle.
Je vais terminer. Ça n'a pas forcément un effet domino vers le harcèlement. C'est juste ce que je veux dire.
Ouais, il y a regard et regard, encore une fois.
On est d'accord.
C'est ce qu'elle disait.
Mais il y a des regards qui sont du harcèlement.
Oui, enfin, comme toi, comme moi, on a déjà regardé une jolie femme. Dès qu'elle nous regarde, on détourne le regard, intimidé.
Alors que, en général, les mecs dont je parle, au contraire, c'est moi qui dois mettre une énergie folle à ne pas rencontrer ce regard.
Allez, je voudrais donner la parole à Josiane, qui est avec nous au 32-16. Bonjour, Josiane.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC dans Estelle Midi. Vous nous appelez du Tarn.
Exactement.
Ce chiffre, plus d'une femme sur deux en France qui hésite à aller à la plage seule de peur d'être harcelée, il vous étonne?
Ah oui, je n'arrive pas à le comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que les femmes puissent se sentir aussi soumises. Comment, à notre époque, alors qu'on s'est battu pendant des années pour justement avoir l'égalité, comment on peut aujourd'hui craindre d'aller à la plage? Mais on n'est pas des femmes fragiles. On n'est pas des femmes sensibles à ce point-là. Nous sommes l'égale des hommes. Et je ne comprendrai pas que ma petite fille puisse avoir peur d'aller toute seule à la plage. Comment ? Ça, c'est quelque chose qui me met hors de moi. On est en train de nous remettre à une époque où on avait nos vapeurs et où on avait peur de tout.
Oui, mais la peur, elle est générée par un contexte. C'est-à-dire que je ne suis pas née avec ma peur du harcèlement. Et je pense que si vous faites un sondage autour de vous, si un jour on devait faire un couvre-feu d'hommes pendant toute une nuit, eh ben, je suis sûre que la majorité des femmes vont se ruer et passer toute la nuit dehors juste pour expérimenter ce que c'est que l'espace public sans avoir peur de rencontrer des hommes. Donc, les femmes, enfin, les jeunes filles et tout, pourquoi elles ont peur? C'est parce qu'elles ont eu plus des premières expériences de harcèlement de rue. D'ailleurs, qu'en général, j'espère que ça a changé, mais on n'en parlait pas avec nos mères, avec nos pères. Moi, personne ne m'a dit quand j'étais petite, attention, il y a un moment où les hommes vont commencer à te parler, à t'arrêter dans la rue, etc. Et vous savez quoi, ça peut provoquer des drames. Je vous raconte, une fois, je rentrais du lycée toute seule et il y a un mec en voiture qui a arrêté et qui m'a dit est-ce que je peux te raccompagner. Et moi, pour moi, c'est tellement saugrenu comme situation que je pensais qu'il fallait lui répondre poliment. Je dis non, ça va, je peux pas. Et ils insistent. Et peut-être que, en fait, ces situations incongrues nous font bugger le cerveau parce que du coup, on ne suit plus les conventions sociales traditionnelles. On doit improviser une défense. Et je me souviens que j'aurais pu monter dans cette voiture parce que j'étais à court d'arguments et que je me suis dit là, c'est un police que t'es en train de faire, Fatima. Et qu'est-ce qui serait advenu de moi si j'étais monter dans cette voiture. C'est l'accumulation des expériences des violences masculines dans l'espace public qui fait qu'on finit par avoir peur et par penser des stratégies, comme le fait par exemple, après une soirée, de penser une tenue de rechange ou de dépenser de l'argent pour retourner chez nous en Uber alors qu'on aimerait rentrer chez nous et qu'il fait beau à la belle lune.
En métro. Ouais, à pied ou en métro. Merci Josiane d'avoir été avec nous au 32-16. Elle nous appelait depuis le département du Tarn. On vous a posé la question, plus d'une femme sur deux qui hésite à aller à la plage en France seule, de peur d'être harcelée. Est-ce que ça vous étonne, Mao?
Non, à 68%, contrairement à Josiane. Une grande majorité ne sont pas étonnés que plus d'une femme sur deux hésite à aller à la plage seule.
Allez, dans un instant, c'est le meilleur du jour sur RMC. On appelle ça le zapping, évidemment.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle, midi, tous les jours, midi, 15h sur RMC. Tout de suite, comme tous les jours, à cette heure-là, on passe au meilleur du jour sur RMC.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on commence avec Charles Matin, un extrait. Arrivez-vous à vous déconnecter pendant vos vacances? Le problème n'est pas nouveau, mais avec le développement des smartphones et du télétravail, de plus en plus de Français ont bien du mal à couper lors de leur congé. Témoignage pour RMC de 3 vacanciers rencontrés à Arcachon.
J'ai pris mon ordinateur avec moi, même si j'étais pas obligée de le prendre. Pour moi, c'est une pression personnelle que je me mets. Quand on revient, y aura du travail à rattraper. Du coup, je préfère être à jour, même si du coup, je mets un peu les vacances de côté.
C'est de la pression déjà des collègues, quoi, de se permettre de prendre des vacances, faut se mettre d'accord tous ensemble, etc. Et puis même, je trouve qu'au niveau société, c'est pareil, hein. C'est un luxe un peu les vacances, c'est mieux vu de beaucoup travailler, de moins se permettre de prendre des vacances, quoi.
On est comme ça confronté au quotidien, à la fois au management des partenaires, au management des salariés, qui eux travaillent pendant qu'on est en vacances. Et tous les matins, on ouvre sa boîte mail, on a des messages, on a des SMS qu'on doit gérer quoi qu'il arrive. Et ouais, c'est du non-stop. Par rapport à ce qui se passait il y a 15 ou 20 ans, on est en permanence branché sur le travail. On arrive en vacances épuisé et on a beaucoup de mal à récupérer.
Fatima, est-ce que tu arrives à déconnecter l'été?
Non, je suis la première à trouver ça dommage et je suis la première effectivement à subir cette pression, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai l'impression que je n'aurai pas le temps, pas toute la disponibilité d'esprit pour remonter à cheval et répondre à ce qu'on me demande dans le cadre du travail. Donc j'ai tendance à prémâcher sur mon temps libre, c'est-à-dire à commencer à voir mes mails, à voir s'il n'y a rien d'urgent qui est en train de se faire. Et il faudrait vraiment trouver les moyens, là aussi hein, je ne pense malheureusement pas que la volonté individuelle suffise, il faudrait trouver une façon technique de ne pas avoir accès à ces mails professionnels en été, quoi.
Tu fais comme moi, tu casses ton téléphone, tu le changes, tu n'as plus les codes, voilà. Et pendant 3 semaines, j'avais plus de mails.
J'ai été larbinisé psychologiquement par le militantisme. En plus, on travaille gratuitement et qu'on se sent tellement en disponibilité qu'il y a un travail qui doit être accompli, qu'on sent le même dévouement envers son entreprise, alors que merde, quoi.
Thierry.
Oui, après, je pense que nous, on est dans des cas particuliers, parce que moi, en tant que journaliste, en vacances ou pas en vacances, je regarde les infos.
Tu es très connecté en toi,
complètement. Je regarde les infos le matin. La première chose que je fais le matin, c'est d'ouvrir la télé ou la radio pour écouter les infos. Et jusqu'au soir. Donc,
c'est ta passion, mais est-ce que c'est...
J'ai pas l'impression.
Est-ce que tu ressens pas en vacances quand même un certain, enfin ça te met un peu de pression quand même?
Non, ça met pas de pression parce que c'est pas un patron qui me demande de répondre à un mail, etc. C'est quelque chose qui vient de moi. Je m'auto inféode en fait. En revanche, je pense que faut faire attention. Ça concerne un certain type de profession et pas l'autre. Je m'explique. Le couvreur, quand il est en vacances, il part en vacances à l'autre bout de la terre, son patron va pas lui dire tiens, je t'envoie un mail pour faire une couverture sur telle ou telle maison.
Oui, mais il peut lui envoyer des mails pour préparer les choses.
Pour faire le devis, oui.
Faut se méfier. Si il y a tel client qui m'a rappelé pour le truc que t'as fait la semaine dernière, il y a un truc qui va pas, ça peut... Attends.
Et puis la déconnexion, le droit à la connexion est maintenant dans le droit du travail. Hein. Faut jamais oublier ça. Faudrait que ce soit un petit peu plus appliqué.
Ouais, mais tu sais très bien, Thierry, va dire à ton patron, c'est bon, le droit à la déconnexion, j'ai le droit, merci, au revoir.
Eh ben, tu vas dire ça à ton patron? Alors, non, mais je pense qu'il y a des sociétés qui sont de plus en plus soucieuses de ça. Et je pense que c'est un mouvement qui va prendre de l'ampleur. Et heureusement, parce que, mais ne serait-ce que pour bien travailler lorsqu'on est au travail, il faut avoir des périodes où on ne travaille pas du tout.
Et ton entourage, tu parlais tout à l'heure, être soucieux de soi et puis des personnes qui nous entourent.
Bien sûr.
C'est sûr que moi, je me suis déjà retrouvée en vacances à limite mal parler à ma sœur ou à mon père. Est-ce que tu peux me prêter ton ordinateur, s'il te plaît? Il faut absolument que j'envoie un mail.
Et l'entourage en souffre. Je suis d'accord.
Jérôme.
Moi, comme je suis sans doute le plus vieux autour de cette table,
non.
J'ai commencé à travailler le 1er septembre 92 et je pensais pas que j'allais avoir 3 ans de bonheur rétrospectivement, puisque j'ai eu mon premier téléphone portable en juillet 95. C'est des trucs que vous n'avez pas connus à clapper, etc. Ouais. Et c'était le début de ma laisse électronique.
Mais j'ai 39 ans, arrêtez de me prendre pour une gâtine.
Le début de ta laisse électronique.
Oui, c'est une laisse, d'ailleurs je l'ai là, elle ne me quitte jamais,
aussi, mais
sur ma table de nuit, etc.
Là,
c'est une laisse électronique. Et comme j'ai été toute ma vie collaborateur, donc j'avais quelqu'un au-dessus de moi, et pas dans le militantisme associatif mais politique, et donc ça veut dire vous commencez à 6h du matin, Jérôme, je fais une matinale, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais,
allez,
et vous finissez,
c'est
vous finissez à minuit et demi, 1h, mais je comprends rien, il manque tel truc dans mon dossier, qu'est-ce qui se passe et pourquoi vous me l'avez pas préparé, etc. Et 200 appels dans la journée. Il y a eu une période, c'est quand j'étais député européen, comme j'étais au sommet de la hiérarchie alimentaire de mon équipe, j'ai essayé d'être moins con que la moyenne. Jamais de collaborateur le week-end et jamais le soir. Mais j'avoue que ça m'a démangé souvent. Donc maintenant, je suis dans une autre domaine de suggestion puisque on parle de déconnexion pendant les vacances. Moi, vos vacances, c'est mon travail. Et donc là, je ne peux pas déconnecter puisque si je veux remplir mes gîtes, il faut que je sois disponible en permanence et être à vos côtés quand vous êtes en vacances.
Allez, les GG ce matin, 12 000 animaux abandonnés depuis le début là, de cet été à la SPA. Manque de place, manque de moyens, forcément. Ça, c'est le triste sort qui est aujourd'hui quotidien pour les refuges. Le président de la SPA, Jacques-Charles Fombonne, alarme face à ce véritable fléau.
L'abandon des vacances, c'est plutôt l'imprévision. C'est-à-dire qu'on prend un animal à Noël pour faire plaisir au petit dernier ou pour se faire plaisir. Et puis, on réfléchit pas et on se rend compte au mois de juin, au mois de juillet, que finalement, les vacances que l'on a l'habitude de passer dans la famille, dans un camping ou dans un hôtel, ne va pas accepter les animaux. Et à ce moment-là, vous comprenez bien qu'entre sacrifier l'animal qu'on a acheté comme un objet et qu'on n'a pas forcément depuis longtemps et sacrifier ses vacances, malheureusement, au détriment de l'animal, le choix est vite fait.
Ah, ce qui est dingue, c'est que ce qu'on entend là, ce que vient de dire Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA dans les GG, ce matin dans les grandes gueules, c'est qu'on l'entend depuis des années, des années, des années, des années, des années. Moi, je l'entendais déjà quand j'étais petit. Je me souviens qu'il y avait l'émission 30 millions d'amis quand j'étais gamin.
Avec Mabrouk.
Exactement. Et on l'entend depuis des années. On reste, je crois, je vais pas dire de bêtises, Mao, si tu peux vérifier rapidement.
Le pays européen, le pire.
Ah, tu comprends?
Oui, je confirme.
Parmi les pays européens.
Le pire.
Nous abandonnons
le pire.
Nous abandonnons le plus nos animaux domestiques. Et qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben alors, il y a une incivilité qui est globale et qui concerne aussi ces animaux. Je pense que ça passera là aussi, comme on disait, on revient au début de notre propos, par une volonté politique. Je pense que ça passera par un statut de l'animal. Le mot le plus fort employé par le patron des 30 millions d'amis, de la SPA, c'est l'objet. Un animal n'est pas un objet, c'est une vie.
On le sait, ça, Thierry. D'ailleurs, il y a des.
Nous, on le sait,
oui. Mais il y a plein de gens qui sont
fous. Ça, ça fait quelques années seulement.
Et il y a un nouveau texte qui vient de passer.
Un être vivant doué de sensibilité.
C'était quoi, il y a 2-3 ans?
Avant, c'était l'équivalent d'une table.
Mais oui.
Et encore, certains prennent plus soin de leur table que de leurs animaux domestiques. C'est ça. Comparaison n'est pas raison. Mais pour moi, ça dépasse l'entendement, comme le débat précédent qu'on a eu.
J'ai pensé.
J'arrive pas à comprendre. Je suis désolé, pas du tout comparer ce genre de choses, mais c'est des choses que j'arrive pas à comprendre. J'ai un animal domestique, j'ai un chien qui est mon compagnon de vie, qui a été là dans des moments où il n'y avait pas grand monde, qui n'était pas facile à vivre. Quel cerveau détraqué peut penser que, enfin, comment il peut regarder ses enfants pour dire, ah ben non, il s'est sauvé, hein, on l'a pas retrouvé, parce qu'il n'osera même pas dire la vérité.
Jérôme. C'est quand tu passes devant un magasin et que tu vois un truc un peu mignon qui bouge, qui est rigolo parce que c'est petit. Mais je suis d'accord avec toi.
Parce qu'on est dans la consommation. On est dans la consommation. Tout le monde a un chien, moi j'en veux.
Exactement. Et tant qu'on ne passera pas par le statut de l'animal juridique, qui effectivement évitera qu'on soit dans des élevages en batterie, etc., parce que ça a aussi beaucoup d'autres conséquences, eh bien, on n'y arrivera pas.
Fatima.
Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Thierry. Effectivement, il y aura un effet normatif de la loi, mais il faut vraiment être là aussi dans la bienveillance et dans la compréhension. Moi, par exemple, il y a 10 ans, j'avais un chat et j'étais une bien plus mauvaise adoptante que je le suis aujourd'hui avec 2 chats, parce que j'ai eu accès à beaucoup plus de ressources d'informations. Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des groupes Facebook sur l'éducation positive, sur vraiment les bons gestes à avoir. Mais ne serait-ce qu'il y a 10 ans, je pensais pas que c'était nécessaire de castrer mon chat. Je l'avais pas castré et c'est très mauvais. Et je pensais qu'il y avait des comportements punitif qui était acceptable et qu'aujourd'hui je ne trouverais plus acceptable. Donc je pense que vraiment il faut communiquer sur ça, et je pense que quand les gens ont beaucoup plus accès à l'information, déjà ils humanisent eux-mêmes leur regard sur leur animal de compagnie et ils deviennent de meilleurs adoptants. Donc il faut un effet normatif de la loi et il faut beaucoup plus de circulation de l'information, ce que s'essayent vraiment de faire les associations.
Jérôme,
quand tu achètes une voiture à crédit, tu as un délai de rétractation de 10 ou 12 jours, c'est pareil pour une maison avant de passer le compromis, etc., qui est fait par le législateur pour te permettre de réfléchir avant de rendre définitivement
l'acte. Est-ce que je vais faire une bêtise ?
Tu rentres dans une animalerie où tu vas chez quelqu'un.
Ça va bientôt être interdit.
De toute façon, on est contre les animaleries.
T'arrives, tu repars avec.
Parce que t'as pas acheté un animal.
Même hors animalerie. T'arrives, mais même donné. T'arrives, tu repars avec. Il n'y a même pas de délai de réflexion.
Les associations sont bien. Oui. Il y a des entretiens maintenant qui sont extrêmement précis, notamment la SPA.
Je vais dire la même chose que Fatima tout à l'heure. Où j'ai compris que j'avais pas de légitimité à parler des problèmes liés au harcèlement, mais c'est la même chose. On parle entre gens qui ne feront pas ça, mais il y a des gens qui sont. Moi, pour moi, je suis désolé, je suis pas assez intelligent, mais ça dépasse l'entendement. Et qui sur une aire d'autoroute disent lâchement, allez vas-y, le clébard va crever dans un coin, et on continue les vacances et on passe des bonnes vacances. Et à Noël, on va en reprendre un peu.
Ils s'imaginent même pas qu'un animal puisse être doué de droit.
Je préfère 100 fois plus la personne qui a le courage de se dire, je suis pas fait pour ça. Est-ce que vous pouvez me trouver quelqu'un pour l'adopter?
Les associations réclament.
Et d'avoir le courage d'arriver sans être jugé.
Toutes les associations qui protègent les animaux disent, s'il vous plaît, n'abandonnez pas vos animaux au bord de la route. Ça peut arriver. On a fait, il y a des accidents de la vie, etc. Et puis peu importe. Venez dans nos refuges. On vous jugera pas.
Mais ils sont débordés.
Et je confirme, en effet, la France est bien championne d'Europe des abandons, même si on ne sait pas trop forcément comment fonctionne la comptabilité ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est trop, et surtout que ça augmente. Parce que là, cet été, c'est 11% de hausse par rapport à l'été dernier. Donc déjà, on le fait énormément. Et en plus, si on le fait encore plus chaque année, on va, quoi.
Ouais. Apolline Matin, faut-il revoir le financement des services de secours? C'est l'appel lancé ce week-end par plusieurs représentants des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile. Ce matin sur RMC, Olivier Richefou, qui est le président des services départementaux d'incendie et de secours en France, propose même un doublement de la taxe actuelle prélevée par les assurances, cette taxe qui permet donc de financer nos secours en France.
Il nous paraît très important que la part qui est affectée aux SDIS puisse doubler. C'est une taxe adossée au contrat d'assurance. Or, les interventions des pompiers sauvent des vies d'abord, mais sauvent aussi des biens immobiliers et donc font faire des économies en quelque sorte aux assureurs.
Alors, on paye plus nos assurances, mais il faut bien financer nos secours.
Il est clair qu'aujourd'hui, le service public coûte cher. On a eu ce débat sur les hôpitaux, on a eu ce débat sur l'éducation, les secours, et là c'est un point crucial parce qu'en ce moment, les secours sont sur le pont, ça coûte cher. J'ai entendu ce matin dans les grandes gueules qu'il faudrait, dans l'idéal, qu'il y ait 14 000 pompiers en plus pour que tout se passe bien. 14 000 pompiers, ça coûte cher. Donc de toute façon, il y a un moment ou un autre, le service public, ça coûte cher. Donc il faudra bien le payer d'une manière ou d'une autre, que ça soit par nos impôts, que ça soit par les assurances, mais il faudra bien le payer.
Ben, à la suite de ça, j'ai déjà intervenu maintes fois dans ce débat, est-ce qu'il faut ça un impôt et un impôt juste? C'est-à-dire que l'impôt sur le revenu étant le plus juste, parce que c'est celui qui permet de vraiment prendre en compte les situations de chacun, contre la TVA qui est l'extrême inverse, et ben, de fait, à un moment, si on veut vraiment avoir un pays avec des services publics efficients, il va falloir faire plus de tranches d'impôts, que l'impôt soit plus équitablement réparti, que les personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'argent payent beaucoup, beaucoup plus, et c'est comme ça qu'on arrivera à l'utopie d'une société égalitaire qui est celle de la redistribution, parce qu'il y a des personnes qui sont héritières et il y a d'autres personnes dont le seul patrimoine, le seul patrimoine, c'est les services publics, c'est leur seul bien. Il y a des personnes qui héritent de leurs parents, de leurs grands-parents, et il y a d'autres personnes dont le bien commun est juste leur accès aux services publics.
Jérôme.
Moi, déjà, les impôts pour payer les services de secours, notamment les services d'incendie, ils existent déjà. Cette taxe sur les contrats d'assurance, c'est pas. Fonctionne pas de l'argent aux compagnies d'assurance. Non, c'est chaque assuré paye une taxe, un impôt, en d'autres termes. C'est une partie du financement des secours pompiers, des sapeurs-pompiers. L'autre partie, ce sont les conseils départementaux. Les conseils départementaux qui prélèvent des impôts sur la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, sur la taxe foncière et le foncier non bâti pour les autres. C'est aussi une question. Si on peut dire chaque jour, il faut plus d'impôts, plus d'impôts, plus d'impôts. On paye 53 ou 54% sur le PIB d'impôts, champion du monde. Et pourtant, personne n'est satisfait d'aucun service public.
C'est la répartition. Il n'y a pas assez de tranches.
Un petit sujet, c'est qu'il y a aussi des choix politiques à faire. Et qu'il y a des départements où il faut faire peut-être un peu moins de giratoires, un peu moins de trucs, et qui paient un peu plus. Et qu'il y a des choix. Alors là, c'est
une gestion.
Ce que je dis n'est pas valable à Marseille et à Paris, bien sûr. Ça ne sert à rien de téléphoner pour dire que je me suis planté. Ce sont des militaires, eux, sur le budget de la nation. Et il y a aussi quelque chose qui doit être développé et qui là est du ressort du gouvernement, qui est la sécurité civile. Parce que les canadaires, etc., les hélicoptères, les dash, etc., ça n'appartient pas au département, c'est la sécurité civile. Et il n'est pas question de dire que chaque département doit être équipé de deux canadaires. Il suffit juste d'avoir un volume suffisant, ce que fait d'ailleurs très bien l'Union européenne, puisque je vous rappelle que quand on est aidé par d'autres pays de l'Union européenne qui, pendant ce temps-là, n'ont pas de drame chez eux, peuvent envoyer les moyens, c'est l'Union européenne qui paye ses déplacements et l'achat de matériel. Ouais. Et ça fonctionne. Je sais qu'il est de bon ton de toujours critiquer l'Union européenne. Ouais. Pour l'instant, ça fonctionne.
Et c'est bien de le dire. Les GG, les écologistes, sont-ils des emmerdeurs? Plusieurs sabotages ont eu lieu ces derniers jours contre des golfs, des jacuzzis ou encore des systèmes d'arrosage publics. Ces faits ont été revendiqués par des militants écologistes qui dénoncent le gaspillage de l'eau. Une méthode qui ne choque pas Bruno Poncet, le cheminot des GG.
Bien sûr qu'ils ont raison, hein, parce que malheureusement, moi j'ai traversé la France, là je revenais d'Espagne, j'ai jamais vu la France aussi sèche. J'ai jamais vu la France dans cet état. Et moi, je trouve qu'on donne des dérogations au terrain de sport. Je trouve ça honteux. Et en plus, on est dans un pays où, malheureusement, quand tu dis les choses, quand tu fais de la pédagogie, à partir du moment que l'exemple n'est pas donné, certainement par le plus haut niveau de l'État, et voire même par d'autres personnes, eh ben, les gens ne réagissent pas et continuent. Enfin, moi, qu'on remplisse encore des piscines et des jacuzzis alors qu'il n'y a pas de flotte dans la plupart des villages et des villes françaises, moi, je trouve ça aberrant.
Fatima, rapidement.
En tout cas, il y a un système médiatique qui fait que sans action coup de poing, on ne parle pas des sujets. Voilà. Et donc, tous les secteurs militants sont concernés par ça. Et j'en sais quelque chose. On fait des réunions pour savoir comment faire remonter un sujet sur un plateau médiatique. Et donc, ce qui est historique, c'est effectivement l'action coup de poing. Et là, quand je dis historique, ça remontera très très loin. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec l'action des suffragettes. Mais je peux vous dire que les suffragettes, elles faisaient pas des tweets. Les suffragettes, elles brûlaient des églises et des champs de derby. Et donc, et d'ailleurs, tout le monde les prenait pour des arrêt, bien évidemment. Et puis, avec le recul du temps, on se rend compte qu'elles ont réussi à imposer un débat qui était celui du droit de vote des femmes. Donc, de fait, et c'est le faucheur d'OGM, bien connu comment il s'appelle, c'est comme ça qu'il a pu imposer un débat sur les OGM sur les plateaux télé. Et ça continuera comme ça tant que le système médiatique fonctionnera de cette manière.
Rapidement, Jérôme.
Si l'enjeu, c'est de réagir à ce qu'a dit la grande gueule dont on a vu l'extrait, a raison, moi je pense qu'il a parfaitement tort. Déjà, une piscine, ça ne se remplit pas. Ça se remplit une fois, la piscine, quand vous l'installez. Après, vous refaites de temps en temps le niveau d'eau. Niveau. Mais ce fantasme de dire que... Enfin, j'ai même des gens qui m'appellent pour dire au moment du coup...
Arroser les golfs, remplir des jacuzzi aujourd'hui.
Déjà, on n'arrose pas les golfs, on arrose le terrain qui est là.
5% du golf est arrosé, en fait. Le reste, sec.
Et ça crée une activité économique, je suis désolé de le faire. Après, qu'il faille des citernes pour capter l'eau, etc., pour refaire le niveau de ma piscine. Moi, j'ai un puits. Comme le puits a tendance à s'assécher, je me suis équipé de réserves d'eau que je prends l'hiver. Voilà. Donc ça, je le fais. Dans mes gîtes, j'ai plus de baignoire. J'ai mis des douches à la place. Mais j'en ai besoin pour vivre économiquement. D'accord. J'essaye d'être le moins désastreux possible pour l'environnement, mais j'essaye.
Voilà. Ces gens-là font plus de mal à la cause écolo que...
C'est toujours la faute d'un autre. Il y a un cheminot qui me dit ça. Je rappelle qu'un des derniers incendies qui s'est déclaré, c'est dû à un frottement sur les voies ferrées qui ont mis le feu à la pampa.
Il faut former la population à soit dans ce combat.
Si vous faire un concours de démagogie.
Merci pour cet éclairage du débat.
Allez, dans un instant, tous les TRMC continuent de s'engager pour vous. Johanna Chabas va nous rejoindre. Elle revient sur les dossiers les plus marquants de la saison. On va reparler d'Ali, qui avait été gravement blessé aux jambes après une séance d'épilation. C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC. A tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC. Et tout l'été, RMC continue de s'engager pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Johanna Chabas est avec nous. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Pendant toute une saison, Johanna, avec toute l'équipe d'RMC, tu t'es engagée pour nous. Voilà, vous êtes venue en aide à nos auditeurs. Retour donc sur les dossiers les plus marquants de cette année. Et là, on va reparler d'Aline. C'était l'un d'entre vous, une auditrice, hein, qui nous avait écrit à RMC pour vous, @rmc.fr, car elle avait eu les jambes brûlées, donc elle avait été gravement blessée après une séance d'épilation à la lumière pulsée. Alors moi, je sais même pas ce que c'est.
Oui, alors je vais t'expliquer, parce que pour ceux qui connaissent pas, la lumière pulsée, c'est cette technique d'épilation définitive où de la lumière est envoyée à très très forte dose sur la peau et sur le poil, et c'est en fait comme ça que le poil, le bulbe en entier, est détruit. Wow. Voilà, c'est censé être définitif, indolore, voilà. Et il y a un an, Aline va dans un centre d'épiltech qui est spécialisé dans le domaine. Elle dépense plus de 2 000 € en avance pour toutes les séances. Sauf que dès la première, elle ressort brûlée aux jambes. Elle a encore des traces aujourd'hui sur toutes les jambes. Et les esthéticiennes ne veulent pas la rembourser. Sur le groupe Facebook d'Epiltech Arnac, on a trouvé des dizaines de témoignages similaires. Donc en mai, lors de notre reportage, on a contacté l'entreprise et la directrice exécutive a été très à l'écoute. Elle s'est dit prête à échanger avec les clientes. Donc on s'est dit que ça allait se régler tout doucement. Sauf que le jour même de la diffusion de notre reportage, Aline a été rappelée par une employée d'Epiltech et la bienveillance promise n'était pas au rendez-vous.
Elle m'a plutôt prise de haut à me dire que mon témoignage du coup n'était plus crédible. Quand je lui parle de des brûlures, je la sens qui rigole et qui sourit au téléphone. En fait, j'ai senti qu'elle a voulu me faire peur. Elle a voulu me dire, eh ben, si vous passez par la justice, attention, ça va pas être simple, il va se passer ça va être long. Et je l'ai pris réellement comme une menace. Et je me sentais pas du tout pris en considération par rapport à mes brûlures en fait.
Alors, comment a réagi Aline ?
Mais du coup, elle a décidé de prendre une avocate, c'est Maître Emaléotti. Ouais, c'est Maître Emaléotti qu'on connaît très très bien. RMC s'engage pour vous. Elle a mis en demeure l'entreprise. Et là, tout de suite, changement de ton radical, évidemment. Oh, bah, Epiltech était très très poli avec l'avocate et a proposé une transaction commerciale. L'entreprise accepte de rembourser une seule séance.
Sérieusement ?
Ouais, une seule séance, celle où elle s'est brûlée les jambes, à 140 €. Et elle propose surtout à Aline de récupérer ses 2 000 €, mais sous forme de forfait.
Non, mais...
En gros, elle dit à Aline de revenir dans un centre d'épiltech pour se refaire épiler. Donc, évidemment, c'est une aberration pour Aline.
C'est ridicule. Ça n'a aucun intérêt. Déjà, premièrement, je ne veux plus y retourner puisque je ne veux plus être brûlée. Et en plus de ça, je ne vois pas ce que je peux m'épiler de plus que ça. Et j'ai l'impression qu'ils se moquent de moi et j'ai l'impression qu'ils m'ont harponné et qu'ils veulent plus me lâcher, en fait. Moi, je voudrais juste récupérer mon argent que j'ai donné, mes économies, et arrêter. Je voudrais me faire soigner par un dermatologue. J'ai l'impression vraiment qu'ils se moquent de moi, qu'ils me balancent un truc, et ils disent comme ça, elle sera contente, ils veulent se débarrasser du truc. Je me sens pas du tout entendue.
Non, mais ce qu'il faut qu'elle fasse, là, enfin, je me permets, mais quand j'entends ça, je découvre, enfin, on en avait déjà parlé, mais on revient sur le sujet, et je me dis, mais là, enfin, c'est même pas le remboursement de ces séances.
C'est dommage et intérêt.
Bah, c'est des dommages et intérêts, elle a été blessée.
Elle, elle s'est dit au début, c'est une assistante maternelle, elle a pas beaucoup de revenus, donc déjà 2000 euros, c'était énorme. Elle se disait, bah, l'entreprise va être aimable, elle va régler ça à l'amiable, ils vont accepter.
Non, elle est déjà bien gentille de ne réclamer que le remboursement.
Ouais, mais c'est pour ça qu'elle a pris l'avocate, et l'avocate lui dit, bah là, on n'a plus le choix, on est obligé, il faut aller en justice, effectivement. Et donc, c'est là où elle va demander à un juge de désigner un médecin expert judiciaire. C'est lui qui va voir à quel point Aline a été brûlée, à quel point elle a toujours des traces. Il va faire un rapport, c'est ce rapport qui va lui permettre justement de demander les dommages et intérêts, même un remboursement complet. Nous, évidemment, on a aussi contacté Depiltech, voir ce qui se passait. Ils ont refusé de nous répondre, ils ne veulent pas réagir publiquement à cette affaire, ils veulent seulement communiquer avec Aline et son avocate.
Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer évidemment à suivre ce dossier.
On va suivre. Ils ont peur de faire un précédent.
Leur directeur de la communication de Depiltech, faut le virer à bad pompe dans la dernière.
Bad buzz.
La virer. Parce que franchement, entre rembourser les 2000 euros à cette dame pour qu'on arrête d'en parler et se taper une émission récurrente sur le sujet,
c'est pas la
troisième ou quatrième fois.
Ils ont peur de créer un précédent s'il y a plusieurs victimes.
Les mecs sont cintrés quand même. Depiltech, franchement, la campagne de pub, vous êtes à côté de la
plaque. En fait, ils ont peur parce
que remboursez vite cette dame.
Il y a plusieurs
ou alors, c'est qu'il y a tellement de personnes que vous voulez pas mettre le doigt dans le grenage.
C'est ça. Non, c'est ça, parce que je pense qu'il y a plusieurs victimes et que du coup, mais je pense que maintenant, on peut faire des actions collectives.
Il y a une page Facebook, c'est Depiltech arnaque. Plusieurs femmes sont d'ailleurs en train de parler dessus pour voir si une action groupée serait pas en cours.
Et on continuera évidemment à suivre ce dossier. Merci beaucoup, Johanna. Dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC. Il y en a déjà 8000 en France. Je parle de quoi ? Je parle des éoliennes. Et on va parler de ce projet de loi qui envisage de faciliter l'implantation d'éoliennes en France, de nouvelles éoliennes. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que c'est une hérésie ? Vous nous appelez au 3216. C'est Estelle Midi sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.